Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On sait tout ou presque des événements politiques et militaires en Syrie. Les bombardements, les tortures, les disparitions, les blessés, les morts, hommes, femmes, enfants. On sait aussi l'exceptionnelle beauté et la vitalité d'Alep, berceau d'une longue histoire inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais que reste-t-il de cette ville? Et que sont devenus ces hommes et femmes, jeunes, pleins d'espoir, éclatants d'énergie et de courage, qui sont à la fois se sont battus contre le régime en place et contre les djihadistes? Que reste-t-il quand on a tout perdu et qu'autour de soi il n'y a qu'un champ de ruines, de larmes et de morts? Cécile Aignan, journaliste au Monde, correspondante de guerre, a recueilli les récits de plusieurs d'entre eux. Leur révolte contre la dictature, leur foi en un avenir meilleur, leur courage, leur désespoir. Cet ouvrage est précieux. Il recèle la mémoire et la parole de ceux que l'on n'entend plus parce qu'ils ont perdu. Il s'intitule « Le fil de nos vies brisées ». Il est édité par les éditions Anne Carrière. Et Cécile Aignan, celle grâce à qui existe cet ouvrage, va nous en élire un premier extrait. Bonjour Cécile, tout d'abord. Et voilà. Bonjour. Alors je vous confie la lecture du tout début de votre ouvrage, qui nous met tout de suite. Oui, voilà. Alors et ça se termine par une autre croix aussi, un peu plus loin.
Était-il bien raisonnable de partir ainsi en quête du passé et des illusions perdues? Ma propre jeunesse est éparpillée dans le brouhaha du Proche-Orient, devenu centre de mon monde. J'y ai vécu et travaillé, le parcourant comme reporter et journaliste, passionné par son histoire et ses dialectes. J'ai tenté de le décrire dans des reportages au sujet d'élections truquées, de conflits larvés ou meurtriers, dans des analyses censées donner du sens à la marche chaotique de l'histoire. Toute vérité se troublait chaque fois qu'à la situation générale se substituait le récit particulier d'un homme, d'une femme ou d'un enfant. Toute analyse, un tant soit peu objective, se fissurait quand l'un d'eux me fixait avec au fond des orbites ces billes d'un autre âge. Avec le temps, j'ai appris. J'ai appris qu'il est impossible de s'attacher à cette région sans en subir la violence. Au fond, je ne pense pas que la région en soit la cause. C'est la guerre, tout simplement. Ce que ces Alépins désignent comme le miracle de leur survie est en réalité une résistance à l'innommable. Leur survie relève de la même irrationalité que la mort de ceux qu'ils ont le plus aimés. Ce n'est plus une guerre lointaine qu'ils racontent, mais leurs peurs, leurs espoirs, leurs amours, leurs remords et leurs regrets. Des émotions qui nous sont familières. J'ai trouvé un écho intime dans leurs récits. Cette résonance inattendue s'est révélée indissociable de l'écriture de ce livre. Alors, au fil de leur vie, j'ai mêlé le mien. Malgré les blessures, beaucoup de mes interlocuteurs ont cultivé l'art de faire éclore l'humour et la grâce dans les recoins les plus sombres de leurs confidences. Ils entretiennent des fleurs fragiles au-dessus du marécage. Leurs éclats de rire sont des cascades. Entre silence et souvenirs se raniment spontanéité et enthousiasme. Jeunesse leur est rendue joufflue d'insolence et de vitalité.
Merci Cécile Aignan pour cette introduction à un livre que j'ai trouvé extraordinaire, en ce sens qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'informations, beaucoup de questionnements et beaucoup d'émotions. Et j'imagine que vous-même, en l'écrivant, vous avez dû ressentir beaucoup d'émotions aussi.
Exactement, d'où en fait ces premières pages et l'extrait que vous m'avez demandé de lire, qui sont en fait une toute petite partie de mon discours personnel, parce que ce livre est en fait la parole des autres et la parole des Alépins qui a été recueillie. Et c'est vrai que j'ai été bouleversée par ce qu'ils m'ont raconté. Et l'une des choses qui m'a semblé la plus importante au cours de la rédaction de ce livre, était de montrer la proximité qu'il existe entre ces gens et nous. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression, quand des guerres, quand des événements qu'on ne peut plus comprendre, tellement ils sont chaotiques, tellement ils sont violents, tellement ils nous apparaissent monstrueux, quand tout nous paraît absolument incompréhensible, il y a un postulat de base qui pourrait être que partons du principe que nous sommes exactement pareil, que nous sommes juste des êtres humains. Et donc, cette petite introduction était une façon de me mettre à leur niveau et de dire que nous allions parler non pas de journalistes à interviewer, mais certainement d'homme à homme, ou de femme à femme, ou de frères à sœurs, ou en tout cas d'épaule à épaule, d'être humain à être humain, de parler de ce qui nous concerne, c'est-à-dire de la vie, qu'elle soit sous les bombes ou qu'elle soit dans la paix, la vie, c'est bien ce qui nous rassemble.
Alors, quelle période couvrent ces récits ?
Alors, j'ai été frappée, ce n'était pas tout à fait prévu au départ. J'avais très envie de connaître quels étaient un petit peu leurs rêves d'enfance ou les mythologies qui avaient un petit peu bercé comme ça leurs âges tendres. Et je m'attendais à des contes que j'allais rapprocher de...
Contes des mille et une nuits.
Et voilà, peut-être pas des mille et une nuits, parce que pour tout vous dire, ils sont tellement... tellement sexuels qu'ils sont plutôt devenus tabous là-bas, mais disons, on va dire...
Oui, ce ne sont pas des livres pour enfants.
Voilà, ce ne sont pas des livres pour enfants, mais en tout cas, des contes qu'on pourrait rapprocher aux nôtres, en les transphasant dans un autre lieu, dans une autre géographie. Et j'ai été frappée de voir à quel point ces enfances avaient été, dès le plus jeune âge, en réalité, prises par la dictature. Des années 80.
Oui.
Par un État tout-puissant, par quelque chose qui pouvait, moi, me rappeler Orwell et 1984, c'est-à-dire un régime avec un R majuscule qui s'empare des esprits, qui colle des oreilles sur les murs et qui vous écoute de partout, qui vous observe. C'est comme ça qu'ils en parlent, c'est comme ça qu'ils ont été élevés et c'est comme ça que leurs grands-parents ou leurs parents, selon... leur en parle, avec tout un tas de phénomènes magiques et de choses totalement irrationnelles qui s'apparentent justement au conte, et où finalement la conclusion est la même, qui est de dire « Jeune fille, jeune homme, ne t'aventure pas dans ces bois dangereux. Fuis les murs et n'ouvre pas ta bouche. » Et donc, en commençant par... Et du coup, systématiquement, j'aurais demandé de me parler des contes de leur enfance qui n'ont rien de contesque, mais qui sont plutôt totalement historiques, même si, évidemment, il y a l'effet de la mémoire et de parfois de la nostalgie, d'ailleurs, des choses assez jolies, et parfois des choses plutôt effrayantes selon ce qu'ont vécu leurs aînés. Et donc, on remonte jusqu'aux années 80 et même avant, à l'arrivée du Parti Basse et de la collectivisation, c'est-à-dire certaines familles bourgeoises qui sont faites, qui ont perdu leurs propriétés, etc. Donc, on est vraiment, selon les personnages, dans des contextes, des schémas différents qui nous montrent différents aspects de la Syrie d'avant Bachar el-Assad.
Oui, alors donc vous faites appel à, si j'ai bien compté, 19 personnes. Il me semble qu'il y a 19 témoignages. En tout cas, vous intervenez à un moment donné.
J'interviens juste le moins possible, mais j'interviens un petit peu.
Oui, mais vous n'avez pas. Est-ce que vous avez remanié un peu les propos ? Est-ce que les propos collectés, comment, qu'est-ce que...
Alors là, c'est sûr que c'est pas un ouvrage sociologique. C'est-à-dire que l'important. Et ce qui me semblait essentiel, si on réfléchit au conflit de la Syrie, et je peux vous le dire pour avoir couvert plusieurs guerres, c'est que la guerre en Syrie a cette particularité, c'est qu'elle n'a jamais donné lieu à autant de documentation et de choses qui nous ont été envoyées, d'images, de vidéos, d'articles, etc., envoyés par les Syriens eux-mêmes, avec une très faible couverture de la presse étrangère, c'est-à-dire la presse dont je fais partie en l'occurrence, pour des raisons diverses, mais notamment parce qu'on n'avait tout simplement pas le droit d'y aller, que c'était extrêmement dangereux et quasiment impossible d'y aller là-bas, d'abord à cause du régime, puis ensuite à cause des islamistes. Et peut-être qu'aucune guerre n'a été documentée autant par les acteurs eux-mêmes, notamment les jeunes. Je ne parle pas des combattants, mais de ce qu'on appelle les jeunes activistes, où eux-mêmes se sont baptisés journalistes citoyens. C'est-à-dire qu'ils avaient des choses à dire. Et pour la première fois, ils prenaient la parole. Et c'est très important dans une dictature où l'autocensure et la censure étaient vraiment la base de l'emprise de cet État sur la population. Et pour autant, malgré ce flot, ou peut-être... ou peut-être en conséquence de ce flot continu et parfois insupportable de la violence qui nous parvenait tous les jours à outrance, la parole a disparu. C'est-à-dire qu'on n'entendait plus les mots. On devait avoir le factuel, on devait avoir le massacre, on devait avoir les corps, les enfants assassinés, on devait avoir toutes ces images dont je pense personne n'a pu échapper ces huit dernières années. Et paradoxalement, on n'a pas entendu leurs paroles. Et je pense que, pour avoir discuté avec ces Syriens qui sont aujourd'hui tous exilés, en l'occurrence les 19 témoignages dont vous parlez, l'impression de n'avoir pas été écouté, de ne pas avoir été entendu. Malgré les efforts considérables et incroyables, quand on pense aux risques qu'ils ont pris pour nous faire entendre leurs paroles, ils avaient besoin de se faire écouter, simplement, de se faire entendre. Simplement, il y a les problèmes de la langue, il y a les problèmes de
Oui, mais vous avez bien retranscrit cette langue, je dirais fleurie, ce langage.
Voilà. Alors ça, c'est un amour personnel et lointain et malheureusement jamais abouti pour la langue arabe. Dans la mesure où j'essayais pendant 20 ans de l'apprendre, voire 25 ans de l'apprendre comme une damnée, sans jamais parvenir à un niveau tout à fait acceptable. Cela dit, pour l'aimer passionnément, et notamment les dialectes, et les dialectes qui sont, comme vous dites, fleuris, qui peuvent être très poétiques, qui peuvent être extrêmement vulgaires.
Aussi, oui.
En tout cas, qui s'éloignent, on va dire, du cliché qu'on en a ici, qui voudrait que ce soit une langue assez rugueuse, assez comme ça, assez un peu rebutante. Et donc, c'était évidemment pas le travail d'un sociologue, c'était tout le défi littéraire que de redonner l'espace,
la vie,
la substance et la profondeur à cette parole, en essayant d'inclure tout ce qu'on ne peut pas entendre ou voir dans un livre, qui sont la respiration, les émotions, les silences. J'aurais aimé parfois pouvoir mettre 10 pages blanches pour montrer à quel point ça pouvait être compliqué, cette parole. Comment l'éditeur pourrait vous dire à quel point il y avait trop de points d'exclamation dans mon livre. C'était qu'il fallait trouver des solutions qui, au-delà de la page blanche ou des points d'exclamation, se trouvaient dans la littérature pour trouver le mot qui correspondait à la poésie, à la profondeur, à la maturité de ces jeunes gens, parce que la plupart sont jeunes, même si c'est pas le cas de tous, qui nous parlent et qui nous parlent de ce qu'ils ont vécu.
Vous parlez de l'âge, j'ai quand même regardé, dans l'ensemble, ils ont moins de 40 ans, alors, majoritairement.
Majoritairement, ils ont moins de 40 ans, et surtout l'âge que je donne, parce qu'il fallait bien faire un choix, et l'âge qu'ils ont au moment où ils parlent, et non pas au moment où ils vivent les choses.
Vous les avez rencontrés.
Qu'ils parlent de leur enfance, où ils pouvaient avoir, disons, 6-7 ans, etc. Il y en a un qui a 17-18 ans à peine quand il parle, mais il parle d'événements qui se sont produits quand il avait 9-10 ans, par exemple, et d'autres qui avaient 24 ans quand ils étaient en exil, mais qui parlent de la période dont ils avaient 16 ans, et puis d'autres un peu plus âgés qui en avaient 50 ou d'autres, qui en avaient 45, etc. Donc, de toute façon, ils sont assez jeunes, ce qui est de toute façon représentatif de la démographie à l'Épine.
Oui. Une ou deux femmes.
Trois femmes.
Trois.
Et quatre, si vous ne m'oubliez pas.
Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'en deux mots, vous pouvez, c'est difficile, rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend dans ce livre? On parle du régime, et c'était le régime de Bachar el-Assad, bien sûr.
Alors, donc c'est le régime, et a été conservé un R majuscule.
Oui,
et c'est
tout au long du livre, c'est le régime.
Oui, c'est le régime. Et c'est vrai que cette majuscule, pour moi, était quelque chose qui avait à voir avec 1984 et Orwell, parce que c'était un régime qui était omniprésent et qui s'immisçait dans l'intimité des familles.
Vous le dites,
et
d'ailleurs.
Qui les contrôlait, oui. Et qui pouvait tourner un frère contre l'autre.
C'est ça. À un moment donné, une des personnes que vous avez rencontrées dit que son meilleur ami l'a trahi.
Exactement. C'est Karam. Karam, qui a eu pour crime gigantesque, selon ce régime avec un R majuscule, d'ouvrir une page Facebook, on est là avant les premières manifestations de 2011, qui commente avec des termes extrêmement réservés les événements qui se produisent au Maghreb, notamment en Égypte et en Tunisie, etc. Et là, lui en plus a cette particularité qui est extrêmement rare dans cette partie d'Alep où en général les familles ont facilement 7, 8, voire 10 ou 11 enfants, et d'être fils unique. Et il avait cet ami qui était pour lui comme un frère. Et un jour, il regarde le foot assez tard le soir, cet ami frappe à la maison et il l'invite à rentrer pour regarder le match de foot. L'autre lui dit « Bah non, viens plutôt me rejoindre quand tu auras fini. » Et là, il se doute de quelque chose, il regarde par la fenêtre et il voit les voitures, ces voitures noires qui attendent en bas. Et là, il comprend et vient sa première désillusion terrible et une fin de l'innocence parce que Karam est un personnage qui croyait fondamentalement en la justice. Il se préparait à devenir avocat, il croyait aussi en la solidarité du monde, il croyait en des choses comme les Nations Unies ou une justice internationale. Et il commence par être trahi par son meilleur ami.
Oui, alors donc, on le voit d'ailleurs à travers tous les témoignages, la police est partout, s'insinue partout. On en parlera ultérieurement. La ville d'Alep, vous pouvez en dire un mot, parce que, en fait, bon, on parle du régime, donc, hein, spoliation, corruption, embrigadement des enfants. Ils en parlent également, hein, le fait que très jeunes, on les fait marcher au pas, on leur fait porter un uniforme, etc. Les médias sous contrôle, enfin, c'est une dictature, tout simplement. La ville d'Alep, vous l'avez connue, vous ?
Absolument pas.
Non ?
Non. C'est pour avoir traîné mes pénates dans à peu près tout le Moyen-Orient et des villes dont, je vous assure, peu de gens connaissent le nom ou l'emplacement. Alep, cette immense ville, une des plus grandes villes du Moyen-Orient, probablement la plus vieille ville de l'humanité encore habitée aujourd'hui, sinon la seconde. Et qui était florissante pour ses activités économiques, qui était un carrefour des cultures, etc. Je n'y ai jamais mis les pieds. Et c'est à la fois une douleur, parce que je sais que je ne la connaîtrai jamais, et c'était à la fois un défi très intéressant, parce que pour avoir connu et aimé, ou parfois haï, je pense, comme les Orientaux eux-mêmes, je ne vais pas trop... Je pense pas trop m'avancer en disant cela, de ne pas coller dans les ruelles d'Alep mais mon propre affect ou mes propres sentiments, et que là j'allais donner strictement la parole aux autres et que mes yeux à moi n'auraient rien à faire dans cette histoire.
Alors on peut quand même dire à nos auditeurs que cette ville était vraiment coupée en deux, et à un moment donné elle a été même matériellement coupée en deux.
Elle était matériellement coupée en deux, sauf qu'il n'y avait pas un mur, mais on va dire exactement l'inverse, c'est-à-dire un trou noir, une rivière aussi au milieu, et des snipers, c'est-à-dire que la traversée de ce no man's land, de ce mur non existant, de cet anti-mur, était mortelle, létale.
Alors, coupée en deux, c'est-à-dire ouest-est est vraiment des positions très différentes par rapport au régime.
Tout à fait. Alors, ça peut s'expliquer par plein de choses, hein, et principalement d'ailleurs pour des raisons, on va dire, bêtement géopolitiques, parce que ce livre est justement l'envie d'échapper à ces logiques et d'expliquer que beaucoup d'événements se produisent plus pour des raisons émotionnelles et personnelles que pour des raisons de force politique. Par contre, la division de la ville, elle se fait pour des raisons, on va dire, beaucoup plus classiques.
Sociales.
Alors, elles sont sociales, elles sont aussi tout simplement la citadelle qui domine la ville. Si vous dominez la citadelle, vous êtes capable, avec des canons, de viser à peu près n'importe où dans la région. Donc, c'est un lieu stratégique, tout simplement, selon des termes, on va dire, selon une réflexion purement de combat ou de guerre. Toute la partie ouest d'Alep est plus récente dans le temps et elle correspond à une installation, on va dire, alors je mets des guillemets partout parce qu'il n'y a pas de jugement dans ce que je dis là, mais plutôt dans les familles nouveaux riches, ou en tout cas de gens qui ont plus réussi dans les finances. Mmh. Alep était une métropole économique et qui, du coup, ont quitté les petites ruelles charmantes mais inconfortables pour aller chercher les grands appartements climatisés de l'Ouest, on va dire.
Alors, et dans l'Est, inversement. Alors, oui, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que dans l'Est, il y avait quand même aussi, c'était rural, et même certains bédouins, je dirais, alors c'est peut-être pas le terme d'ailleurs là, mais enfin, des gens qui se sont sédentarisés à cet endroit, et donc une population plus mouvante, en fait, plus pauvre et plus mouvante.
Tout à fait. Bon, alors ça, c'est lié aussi au réseau, on va dire, au réseau routier, etc., qui faisait que telle partie était plus connectée avec la côte méditerranéenne ou avec la capitale, alors que tout l'Est était, elle, plus relié au désert qui mène à l'Irak et qui mène à toute une autre économie. Qui est celle des nomades qui est celle d'un autre monde, on va dire, d'un autre monde social et qui est ancrée aussi dans un autre rythme qui n'est pas celui de la ville, mais qui est celui du désert où on change et qui, selon les saisons, nous apporte ce qui nous permet de survivre, etc. La Syrie a été touchée par plusieurs par des périodes de grande sécheresse où on a vu des grands mouvements de population où les plus pauvres, hein, ou ces gens touchés par la sécheresse et une partie des nomades se sont sédentarisés dans les faubourgs de l'Est qui étaient plus pauvres et donc, on va dire, moins regardants sur comment est-ce qu'on allait bâtir des maisons ou des bâtisses ou des tas de tôles ou des cabanes qui n'allaient pas être recensées légalement par la ville.
D'accord. Alors, j'ai eu l'impression, en lisant les témoignages, les récits des personnes que vous avez rencontrées, qu'au départ, il n'y avait pas que les différentes religions vivaient plutôt en bonne intelligence. Par exemple, un d'entre eux tombe amoureux d'une jeune fille chrétienne. Et apparemment, ça ne pose pas trop de problèmes.
Ah ben ça n'en pose même aucun. Et à tel point que lui ne sait pas qu'elle est chrétienne et elle ne sait pas qu'il est musulman. Et tout ce qu'il trouve absolument fascinant, c'est sa robe rouge et le brillant qu'elle a, l'espèce de clou qu'elle a sous la bouche. Et il la trouve absolument... il pense que c'est la femme de son rêve, comme il le dit. Et il tombe passionnément amoureux d'elle. Et toute la scène se passe en haut de la citadelle, qui était un lieu de rencontre pour tous les Alepins, quelle que soit leur religion. Parce que Alep avait comme ça ces grands lieux historiques où les populations... quelles que soient leurs origines, pouvaient se rencontrer, se retrouver. Mmh. Et là, c'est Amir tombe amoureux de Rawa, presque quasiment, on peut parler de coup de foudre, et à tel point qu'il a comme ça cette folie qui est, au lieu de la regarder discrètement, et là, on n'est pas d'un problème de religion, mais juste d'un problème de jeunesse et de comment on flirte à cet âge-là à Alep ou ailleurs, décide d'aller voir directement à sa mère pour lui dire, écoutez, Rawa est la fille de mon rêve et il faut absolument que je la vois, que je la rencontre, que je la connaisse mieux. Et cette mère l'invite tout simplement à partager un repas sur la citadelle et ils vont en effet se connaître pendant beaucoup plus longtemps. Et c'est que suite au deuxième rendez-vous qu'il va apprendre en allant chez elle, invité par la famille, que Rawa est chrétienne et qu'elle va apprendre que Amir est musulman.
Alors, pour nos auditeurs, on rappelle que le pouvoir en place, le régime Bachar el-Assad, est chiite, une minorité en Iran, en Syrie, et la majorité étant sunnite. Et il y a un pourcentage, il y avait, je dirais, 10% de chrétiens. Ce qui me fait penser que finalement, la césure était moins... entre les religions, mais peut-être c'était la césure sociale, économique. Parce qu'à plusieurs moments, ils se disent humiliés, certains se disent humiliés, du fait qu'eux ont un avenir qu'ils jugent bouché. Ils n'auront pas la même chance que d'autres qui sont dans l'autre partie de la ville.
Alors, l'intérêt justement d'avoir différents témoignages et différents points de vue était de montrer que ce que vous dites là est parfaitement juste et qu'en même temps, ce n'est pas la seule grille de lecture. Mmh. C'est-à-dire, on peut prendre la lecture sociale comme vous venez de la définir, comme on peut prendre une lecture un peu plus communautariste, comme on peut prendre une lecture aussi générationnelle, quand on peut prendre une lecture vraiment entre village et ville, c'est-à-dire l'urbain contre, contre le désert ou contre le paysan, et que justement, à réduire le conflit syrien selon une seule de ces données...
Ça serait trop simplifié, je vous l'accorde.
Ça serait simplifié et ça ne serait pas rendre, comment dire, à leur juste mesure, les valeurs qui ont été défendues par ces jeunes.
D'où la complexité du problème.
Qui ont été côte à côte sur les barricades, quelle que soit justement... religion, certains d'ailleurs, c'est le cas de Zacharia qui vit d'une famille extrêmement riche, il n'arrête pas de se lamenter parce qu'il a ruiné son père qui avait fait fortune en vendant des stylos Bic made in China et qui vivait et qui avait son appartement personnel et sa voiture personnelle.
Il venait de l'Ouest, celui-là.
Disons, son grand-père venait de l'Est, comme tous les, entre guillemets, c'est eux qui le disent, je reprends l'expression, les vrais Alépins venaient forcément de la ville originelle, celle où, soi-disant, Abraham lui-même serait venu avec sa vache pour nourrir les affamés en offrant le lait de sa vache de ses propres mains. Donc les vrais Alépins, forcément, de ce point de vue, ne pouvaient venir que de l'Est et que de ces vieilles ruelles. Simplement, dès que l'économie s'en mêlait et dès qu'on réussissait, on allait bouger à l'Ouest, où c'était quand même plus confortable, tout simplement parce que c'était plus moderne et qu'il y avait plus de place. Et la césure, la scission, la séparation d'Alep ensuite devient complètement politique, dans le sens où des gens comme Zacharia, qui était à l'Ouest et qui venait d'une famille extrêmement fortunée, abandonne tout, laisse les clés à son père, la voiture, le magasin et tout team pour partir à l'Est, retrouver ses racines et surtout retrouver ce en quoi il croit, c'est-à-dire à un peu plus de liberté.
Alors Cécile Aignon, je vous propose une pause musicale. On va écouter Musique de l'exil. Vous connaissez certainement, je pense, puisque si j'ai bien compris, toutes les personnes que vous avez rencontrées sont exilées en ce moment.
À l'époque où je l'ai écrit, il y en avait un seul qui continuait à combattre et j'ai le regret de vous dire que celui-là aussi est dorénavant en exil.
ذلك العشق الذي زاد الضنا ما حيا
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous avons écouté Musique de l'exil, musique syrienne de l'exil, puisque les personnes qui ont parlé à Cécile Aignon, Cécile Aignon, je le rappelle à nos auditeurs, est journaliste au Monde, et elle a rassemblé des témoignages de personnes, d'hommes, de quelques femmes aussi, qui ont vécu la chute d'Alep, la destruction d'Alep. Musique de l'exil, puisque ces personnes sont toutes actuellement exilées. Alors, ce roman, ce n'est pas un roman, c'est un témoignage. Les fils de nos vies brisées, et le titre est bien trouvé, je trouve, qui est paru aux éditions Anne Carrière. Et voilà, Cécile Aignon, on se retrouve. Tout à l'heure, on parlait ce sont des jeunes, hein, dans l'ensemble, en tout cas au moment des combats. C'était la plupart des étudiants, d'après ce que j'ai. La plupart, hein, il me semble. Alors, je retrouve dans les révolutions,
une
d'ailleurs.
Une partie d'entre eux sont étudiants, et à vrai dire, l'université d'Alep a joué un rôle essentiel, parce que c'était, à part les mosquées, un des seuls endroits où il y avait possibilité de rassemblement. Même si l'université a tout de suite été mise sous contrôle strict de l'appareil
sécuritaire. Mais pourquoi Damas,
par exemple ? Pardon ?
Damas, c'était pas, il n'y avait pas de...
Mais Damas, c'est la capitale, donc vous pouvez imaginer toutes les forces qui ont été mises en branle à Alep, qui était une capitale économique, a été 100 fois plus importante à Damas, où cela dit, parce qu'on dit toujours que Damas était préservé, etc., en réalité, ce sont quelques rues de Damas qui ont été épargnées, parce que quand on parle de la Ruta ou des faubourgs, c'est réellement comme si je vous parlais du quartier d'à côté, là, qui serait sous le feu et les flammes, mais que vous pouviez continuer à vivre normalement.
Alors, je disais étudiant, il y en a un qui est d'un milieu paysan et nomade, et il est assez traditionnaliste, d'ailleurs.
Oui. Hein? Tout à fait. Alors, je pense que. Alors, en fait, il y en a deux, donc je suis pas sûre.
Oui.
Auxquelles.
Par rapport aux femmes en particulier. Bon, évidemment, mais voilà, c'est la diversité des populations. Est-ce que c'était. Ils étaient hostiles au régime. Ils voulaient faire la révolution. Alors là-dedans, comment a-t-on pu distinguer les djihadistes et les rebelles ?
Alors déjà, là, j'ai juste, ça me semble très important de dire que s'il y avait, c'était pas tant une hostilité au régime, c'était pour eux une espèce de fenêtre ouverte quand ils ont vu ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, pour le changement. Et au départ, tous les slogans, tout ce qu'on a vu dans les rues, était, on va dire, c'était, on voudrait un peu plus de changement, changer la loi, etc. Ils ont attendu, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait mitrailler de balles, et que, si vous voulez, les deuils et les funérailles étant elles-mêmes mitraillées, tout ça, on est entré dans un espèce de cercle vicieux de la violence, et c'est là où j'en reviens à l'humain et à son émotion et à sa capacité de supporter certains événements, et notamment la mort de son enfant ou de sa mère ou de son frère, et de comment est-ce qu'on passe d'une revendication politique à un geste de vouloir, on va dire, rendre justice soi-même, et en entrant soi-même dans une logique du tout ou rien, parce que votre cœur éclate. C'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que la violence qui s'est déchaînée contre au départ des manifestations qui sont pacifiques emmène une violence de réaction et une violence passionnelle qui par ailleurs est elle-même monstrueuse par moments, mais qui ne peut se comprendre, et c'est pour ça que c'était
que
aussi
important.
Que par
la violence antérieure.
Surtout par le fait de voir qu'en tant qu'être humain, tout simplement, de se demander qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place si ma petite copine avait été violée, lacérée et renvoyée devant la porte de mon beau-père la veille de mon mariage. C'est ce qui arrive à Samy, c'est oui. Simplement ces questions-là, Samy n'a jamais pris les armes, ces questions-là, elles nous posent la question de savoir, avant de juger de la monstruosité ou de la barbarité de l'autre, de savoir en tant qu'être humain comment nous-mêmes serions à même de réagir face à une violence qui nous attaque profondément dans, dans notre identité, dans ce que nous avons de plus cher.
Alors vous dites que c'est une réponse à une violence, mais quand même à travers leurs propos, il y a quand même en même temps un besoin de justice et de liberté.
Exactement, c'est-à-dire qu'au départ, on est dans un besoin de changement et de plus de liberté, et que face à la réponse, ça devient une demande de justice. Ça devient une demande de justice qui, comme elle n'a pas de réponse, devient une justice qu'on appliquera nous-mêmes. Pour certains d'entre eux, parce que beaucoup refusent la violence jusqu'au bout et l'armement jusqu'au bout. Mais pour certains, ils le disent, c'est-à-dire, et ça paraît un paradoxe, c'est Moulham qui le dit, j'ai voulu sauver le pacifisme, mais pour que nos jeunes chantent dans les ruelles pacifiquement, ben il fallait qu'on les protège. Parce qu'ils étaient aussi innocents et aussi fragiles que des hirondelles au printemps, qui se faisaient fusiller, là, comme ça, gratuitement. Et donc, il fallait que nous, on soit là pour les protéger de ces bêtes. Et c'est comme ça que se met tout un processus entre ceux qui prennent les armes et ceux qui ne les prennent pas. Ouais. Et d'ailleurs, ceux qui ne les prennent pas et qui, pour autant, endurent des choses extrêmement difficiles, des emprisonnements, des deuils dans leur famille, des morts, etc., ont vu comme une confiscation de leur révolution, souvent par ses aînés ou par d'autres qui ont décidé de prendre les armes. Oui. Tous n'étaient pas d'accord là-dessus. Et c'est un des premiers glissements de la révolution, à savoir qu'on passait du mouvement pacifisme au mouvement armé.
Alors tout à l'heure, on parlait d'ailleurs des réactions des parents. Ben, pour certains, évidemment, la peur pour leurs enfants, la peur pour leur famille. Mais aussi, à un moment donné, il y a l'espoir. Il y a un des pères qui se tait, qui ne parle pas, qui ne se manifeste pas, qui est même hostile, on dirait, à son fils, qui va, qui vient, et qui, quand il comprend que son fils a pris la décision de se battre, change du tout au tout. Et on a l'impression que pour lui, c'est un espoir, c'est la continuité de ce qu'il avait accompli, qu'il avait cherché à accomplir.
Je pense que c'est exactement ça. Avec cette nuance que cette histoire nous est racontée par le fils, donc sans savoir ce qu'a pensé le père. Mmh. En tout cas, le fils, qui n'a jamais compris pourquoi son père, en fait, disparaissait, réapparaissait comme par magie dans sa maison, et qu'il a mis des années à comprendre que son père avait été un opposant politique, en l'occurrence communiste, et que ses disparitions, que personne ne daignait lui expliquer, étaient dues à ses emprisonnements. On les lui cachait pour pas qu'il ne soit stigmatisé à l'école, pour pas qu'il y ait des ragots des voisins, etc., etc. Son père ne parlait jamais, il y avait un espèce de silence imposé à la maison. Et lui, finalement, on a voulu à son père, qui considérait un peu comme une lavette, là, bloqué dans son bureau entre ses bouquins et qui ne disait jamais rien. Et lui, qui se met à manifester, alors pas comme passionné de théâtre et d'art, lui veut surtout plus de... Ce qui l'intéresse au départ, c'est plus d'expression artistique. Vous voyez qu'on est bien loin de dégager un régime. Toujours est-il que là, son père se met à s'inquiéter en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais à traîner dans les ruelles ? Rentre plus vite à la maison. » Et qu'un jour, il a l'altercation a lieu et qu'il lui dit « Mais père, ce que tu n'as jamais su faire, eh bien moi, je le fais. » Ouais. Il se heurte et là, soudainement, en fait, le fils comprend que son père n'a pas été l'absent et l'espèce de fantôme magicien qu'il avait cru, mais quelqu'un qui avait eu lui aussi des espoirs dans sa jeunesse avant d'être brisé à son tour par le régime. Et là, en fait, se réconcilie totalement à son père et reprend le flambeau, et c'est comme ça qu'il le dit. Et il le dit, là où mon père est tombé, je me suis relevé, j'ai repris le flambeau. Voilà. Et il était lui aussi à l'université, en littérature. Et c'est là où il décide de quitter la fac, qui de toute façon était remplie de policiers, où il a rendu son dernier essai, où il dit, et j'ai écrit d'une main très sûre, le titre de mon dernier essai, « Je suis mon père ». Et après des années d'opposition à cette figure comme ça, patriarcale et difficile,
la transmission.
Lui reprenait le rôle, exactement, et avec la bénédiction de son père.
Alors, un autre exemple aussi, c'est Karam, qui raconte comment il a été à la fois prisonnier du régime, par chance, il a eu une amnistie de Bachar el-Assad, puis prisonnier de Daesh. Et alors, ce que je vous disais hors antenne tout à l'heure, finalement, ils arrivaient à se combattre sur deux fronts.
Alors, il y a eu une période absolument terrible, parce que tout ça se passe quand même entre, on va dire, entre 2012 et 2016, donc on va dire, en gros, sur 4 ans, pour le gros des combats, même si des manifestations ont lieu un petit peu plus tôt. Et Karam, il a à la fois le malheur et puis la chance inouïe, et puis ce qu'ils appellent chance inouïe est de toute façon une forme de choses totalement irrationnelles. C'est pourquoi les uns survivent et pourquoi les autres non, avec cette culpabilité toujours de se dire et pourquoi moi je ne suis pas mort, parce qu'en l'occurrence, autour de Karam, tous ont disparu. Était que lui donc a été arrêté avant même le début des manifestations suite à la dénonciation de son meilleur ami, lui le fils unique, lui qui n'avait que sa mère et son père, ce qui est assez rare dans cette ville, et qui par la suite sorti des geôles du régime, en effet suite à une amnistie, se retrouve à être l'un des premiers Alepins à être arrêté par l'État islamique, à l'époque où en réalité il connaissait déjà les habitants connaissaient déjà la présence des islamistes, les gens d'Al-Nusra, etc. Ils ne connaissaient pas forcément ce que nous connaissons tous aujourd'hui, Daesh, État islamiste, etc. Et lui se retrouve l'un de leurs premiers prisonniers et reste 6 mois, c'est-à-dire c'est un record, enfermé dans leur prison et en ressort par une amnistie du calife en personne. Et il lui dit lui-même comment, dans cette espèce de magma incompréhensible, où en gros, le fait d'être être humain était la seule chose qu'on me reprochait parce qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à me dire, et bien dans tout ce magma incompréhensible qu'était Daesh est apparue l'administration, l'administration qui m'a sauvé avec toute l'irrationalité, on va dire, et puis l'absurdité de cette apparition de cette administration dans ce drame, et qui fait qu'il sort vivant alors que tout le monde pensait qu'il était mort, et alors que à ce moment-là, et au moment de la défaite de Daesh en 7 jours à Alep, 72 cadavres sont retrouvés dans les bâtiments qu'ils occupaient près de la ville.
Alors, dans tout votre ouvrage, on voit les différents récits qui suivent un ordre chronologique. Alors, évidemment, il y a l'enfance, il y a les parents, il y a l'éducation. Certains encore restent près de l'enfance. À un moment donné, il y a une belle description de la grand-mère de l'un d'entre eux, d'ailleurs. Il y a la réaction des parents. Et puis, on voit la vie de ces jeunes adultes, les amours, les projets, les rencontres, les rires, les pleurs. L'endurance aussi, la fraternité, vous en avez parlé, la fraternité aussi, leur peur, parce que bon. Alors, et puis l'humour. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en lisant, on se rend compte qu'en fait, sous nos yeux, ils vieillissent. Ils vieillissent terriblement et on est triste pour eux. Et en particulier, celui qui découvre finalement que on va leur tirer dessus volontairement, on veut leur faire mal. Ce sont des hélicoptères. Qui sont au-dessus de la ville, et depuis les hélicoptères, on va leur tirer dessus. Et lui, on sent sous nos yeux, enfin grâce à vous, on le voit tout d'un coup, il réalise tout ce que ça signifie. Alors, est-ce que vous voulez bien lire ce passage ?
Avec plaisir.
Page 254.
Puis se produisit l'impensable, l'inimaginable. J'étais cachée dans la maison de ma sœur dans les faubourgs d'Alep, espérant échapper aux services de sécurité. L'été était brûlant. Je suis sortie sur le balcon vers 5h de l'après-midi, attirée par la clameur qui montait des ruelles. Les habitants se hâtaient à pied, en voiture, par centaines, par milliers, traînant des valises, du mobilier, dans la chaleur et les klaxons. Je les ai interpellés. « Oh Jean, oh Alepins, mais que se trame-t-il ? Pourquoi vous sauvez-vous ? » La plupart n'ont pas levé la tête. Certains ont crié en retour. « Le gouvernement nous envoie des bombardiers, ce soir ils attaqueront !» J'étais sidérée par leurs prédictions dont je ne croyais pas un traître mot. Mais revenez, mes braves, c'est impossible. Cela n'arrivera jamais. Ce sont encore des mensonges, ne partez pas. » Ils couraient en une foule compacte et affolée, laissant derrière eux les rues du faubourg silencieuses et désertées, parsemées d'une chaise, d'une casserole, d'une chaussure qui avait dû s'échapper de leurs cartons et baluchons. Le soir, les hélicoptères arrivèrent. Je les ai aperçus de loin et j'en ai été bouleversée, car en vérité, j'avais refusé de croire les prédictions des habitants. Les hélicoptères s'approchaient dans un vacarme de retors qui soulevait la poussière et me fendait l'âme. Sous les pales tournoyantes brillait l'éclat métallique des mitrailleuses. Les aviateurs tiraient sur la ville, ils nous tiraient dessus. Puis apparurent des tanks qui firent feu d'obus, comme s'ils se trouvaient en rase campagne et non dans la deuxième métropole de Syrie, peuplée par des millions d'habitants. Le lendemain, ma famille quitta Alep et la Syrie. Moi seule suis restée.
Oui, on voit cette extrême jeunesse qui tout d'un coup réalise cette inconscience, parfois d'ailleurs, ils vont au-devant du danger, ce courage aussi, ce jusqu'au boutisme.
C'est le propre de la jeunesse.
Oui, exactement.
C'est le propre de l'adolescence, ouais, d'avoir des rêves. Et ce qui est terrible, c'est de voir à quel point leurs illusions, ouais, elles sont à ce point brisées, et aussi rapidement et aussi sauvagement. Ouais. Et c'est ça le drame de cette histoire, peut-être. C'est de voir toutes ces élans de jeunesse qui sont écrasés, réduits à néant. Ouais.
D'ailleurs, il y a une phrase qui est très belle, nous fûmes multicolores, éclatants de courage et de beauté.
Et oui, et ça, c'est un jeune homme qui est génial, qui s'appelle Bara. Qui a épousé une jeune femme qui s'est retrouvée orpheline, qui l'a aidée sous les bombes à étudier. Parce que n'oublions pas, et pour moi c'est important de le dire, que ce sont beaucoup d'histoires de résistance et d'amour et de grande solidarité, même si le cadre est dramatique parce que c'est celui de la guerre.
D'ailleurs, on voit également le corps médical extraordinaire.
Voilà, le corps médical qui sont, comme le disent les habitants, qui étaient des bougies dans nos ténèbres. C'est ce qui reste de leur humanité. Et c'est ça qui devrait rester de ce livre. Parce qu'en réalité, leurs vies sont extraordinaires parce que les circonstances le sont. Mais nous, en Europe, c'est pas comme si on n'avait pas connu la guerre. C'est pas comme si on la connaîtra peut-être pas un autre jour, malheureusement. Et donc, ce qui est formidable, ce qu'ils nous disent, malgré leur jeunesse, c'est dans leurs illusions et dans leur courage et parfois dans leur innocence et puis dans leur jusque-boutisme, dans les choses les plus radicales et parfois aussi les plus belles, c'est comment ils résistent. Mmh.
Alors là, j'ai noté Abdelkader comme Samy, par exemple. Alors j'ai trouvé qu'ils avaient, quand ils racontaient, ils arrivaient à avoir de l'humour. Et je me dis, c'est formidable, ça.
Bon. Ah, mais je peux vous assurer que certains de nos entretiens se sont passés dans des grands fous rires, oui. Et que je n'aurais jamais pu décrire, par exemple, l'État islamique comme l'a fait Abdelkader, qui m'expliquait tout simplement mais tu pouvais jamais savoir d'où ils venaient, ces mecs-là, parce que quand on leur demandait est-ce que t'es marocain, est-ce que t'es afghan, est-ce que t'es martien, ils nous répondaient tous la même chose. Ils nous disaient on vient de l'eau, parce que tu comprends, dans le Coran, on dit que tout vient de l'eau. Ben moi, je crois que ces mecs-là, ils n'ont jamais eu papa-maman, tu vois. C'était des mollusques ou, je sais pas, des amibes. Moi, je pense que comparer l'État islamique à des amibes, il y avait Abdelkader pour le faire. Et vraiment, j'étais heureuse de retranscrire sa parole. Mais d'une certaine façon, c'est raffiné, en tout cas.
Et en même temps,
ça lui est propre.
Mais je pense qu'effectivement, au Moyen-Orient, on voit des gens qui ont un esprit très fin. Par exemple, Akil, qui est étudiant en journalisme. Et il y a une
sportif au départ. Hein,
comment
parce que sportif, c'est un
oui,
fan de foot.
Oui, sportif au départ, effectivement. Mais il a une lucidité. Il se rend compte que finalement, il ne faut pas qu'il se calque sur les Occidentaux.
Ah oui, il est très déçu même parce que il avait une admiration comme ça, il s'était fait une idée,
une fascination presque.
Une fascination exactement pour les démocraties et donc je le cite particulièrement occidentales, et il se fait lui-même des schémas, etc.
Ouais.
Et il se sent un petit peu trahi dans le sens où il dit finalement Ce qu'on nous avait raconté, c'était quand même vachement exagéré. Et puis une fois en exil, on s'est rendu compte que ces gens-là, peut-être qu'ils nous avaient décrit des choses un petit peu trop belles. Et il revient sur ce thème qui est fondamental pour comprendre ce qu'il se passe. Et je ne pense pas que c'est propre au Moyen-Orient, je pense que c'est propre à l'humanité, qui est la question de la dignité. Et il dit... Que m'importe de vivre à Bagdad, à Paris ou dans un camp de réfugiés si moi j'ai perdu ma dignité d'homme ?
Voilà, il nous reste très peu de temps et pourtant on pourrait parler de bien des choses encore. J'aurais plein de questions à vous poser et sur tout ce fonctionnement puis toute cette ardeur qu'ils avaient, sur les femmes aussi, parce qu'on aurait beaucoup à dire sur les femmes, il y en avait peu dans votre
témoignage. Mais elles prennent
absolument,
une part importante.
Et un courage énorme. La version de certains, ce sont les Russes, etc. Sur la culpabilité également qu'ils ont, vous l'avez mentionné un instant, mais aussi, moi, ce que j'ai trouvé très beau aussi, un d'entre eux qui a encore foi en une justice, il dit « J'espère donner un jour ces photos à la Cour pénale internationale pour leur montrer ce massacre psychédélique. » Il croit encore, il espère en une justice. Voilà, et en fait...
Croyez-moi, notre espoir à tous, oui. pour vivre ensemble, aussi bien avec les étrangers qui viennent comme ça de pays terribles, dans l'espoir que chacun se trouve bien où il est. Il n'y a absolument qu'un seul espoir. Et il faudrait accompagner Zacharia, puisque c'est Zacharia dont vous parlez, ça serait de croire à une hypothétique justice internationale.
Mais oui. Alors ces témoignages, dans leur diversité vraiment, et leur sincérité aussi, nous émeuvent, enfin m'ont ému particulièrement, et parce que tout en décrivant une ville en folie, destructrice, ils nous font toucher du doigt en fait ce qui fait, je dirais, moi, la grandeur de l'homme quand il veut exister et vivre libre. C'est ça.
Exactement, exister et exister en étant vivant. Non pas survivre dans l'immédiateté pour sauver sa vie à tout prix et au prix de mettre à bas tous les principes, mais d'être vivant, c'est-à-dire être des hommes et des femmes debout, avec des principes, et en aimant la vie et en croyant en l'avenir.
Voilà. Un grand merci, Cécile Lignon.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un ouvrage intitulé « Le fil de nos vies brisées », passionnant à lire aux éditions Anne Carrière, à lire non seulement comme témoignage de ce qui se passe en Syrie, mais comme témoignage humain, largement humain.
Merci.